Avant de commencer l'épisode, laissez-moi juste vous dire un immense merci d'être de plus en plus nombreux à suivre le podcast Impacter le monde. Et si vous désirez faire partie de cette belle et grande communauté, tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner via votre plateforme préférée. Alors, j'adore vous lire, j'aime lire vos commentaires, je les partage aussi avec nos invités et ça va être un grand plaisir de savoir que vous nous appuyez encore plus en vous abonnant. Comment peut-on impacter le monde ensemble en étant encore plus joyeux, plus léger, plus conscient? Là-dessus, je vous souhaite une bonne émission.
Si pour moi, le fait de, pour moi, retirer les sucres, tu sais, aujourd'hui, oublions le mot keto, oublions le mot kétogène. Si je te dis, Karine, de retirer les sucres, est-ce que ça fait du sens?
Oui.
Ben, ça faisait du sens pour mes enfants.
Oui.
Et là, je cuis ça dans la poêle, puis mes enfants me regardent en me dire, ça n'a pas l'air mangeable, maman. Et là, je prends ma première bouchée, puis c'est tellement sec. Puis là, je pars, là, puis ça revole comme des biscuits soda. Puis là, je suis comme, mon Dieu, Jeff, je ne sais pas comment qu'on va faire.
Allô, allô, je te souhaite la bienvenue au podcast Impacter le monde. Cet épisode va faire voler en éclats tous tes points de vue sur l'alimentation. Alors, assis-toi, peut-être prends une grande respiration avant ta prochaine bouchée parce qu'il est possible que tu vois une déconstruction totale de tout ce que tu pensais savoir au niveau de l'alimentation. Parce qu'à chaque fois que je regarde un live sur Instagram de mon invité, je fais « Oh, je ne savais pas ça ». Et ça va être l'objet dans notre assiette, l'alimentation et le sucre. Émilie Maurice, auteure du livre « Cuisine kétogène en famille ». Allô, es-tu prête à impacter le monde?
Oh que oui, puis merci tellement pour cette invitation. En fait, je me suis invitée aussi. Hein?
Oh, écoute, je suis tellement heureuse de jouer avec toi parce que c'est vrai que chaque direct que tu fais sur les réseaux sociaux, ça a un impact dans mon univers.
Oh, c'est gentil. Ça. En fait, c'est l'objectif. Honnêtement, je veux éveiller des consciences. Je veux que les gens soient... Je vais dire choqué, ébranlé, fracassé, émerveillé, bref, tous ces mots-là à la fois, mais je veux que les gens se souviennent du message que je porte.
Je suis déjà tellement excitée, hyper fébrile. Ce message-là que tu portes si puissamment à l'intérieur de toi depuis des années maintenant, ça concerne entre autres l'alimentation et le sucre.
Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai commencé vraiment avec le fait que l'alimentation cétogène stricte, c'était vraiment, je te dirais, un focus sur le sucre et au fil du temps, évolutif, on apprend des choses, je continue à me former, je continue d'observer énormément ce qui se fait sur les différentes plateformes d'alimentation. Et là, ensuite, enchaîner les mauvaises huiles. Ça, c'est vraiment aussi un point majeur.
Un cheval
majeur.
De bataille.
Ouais, vraiment, ouais. Vraiment, un cheval de bataille. C'est quelque chose que, tu sais, si tu viens chez moi, tu regardes dans mon garde-manger, tout ce qui est mauvaise huile, les huiles de canola, les huiles arachides, tournesol, palme, bref, ça ne rentre plus à la maison.
Parce que c'est ultra-inflammatoire.
Exactement. C'est un mot que je n'ai pas normalement le droit de dire, mais là, tu le dis avant moi.
Ah oui?
Oui, c'est inflammatoire.
Ah, mais dans certains cas, si on veut juste être clean, dans certains cas, c'est très inflammatoire.
Oui, en fait, ça affecte le métabolisme, ça va affecter la digestion, ça va affecter aussi la flore intestinale. Si vous suivez, entre autres, Paul Saladino, lui, c'est un docteur, lui, je peux le nommer.
OK.
Fait que lui, il va vous le dire aussi. Tu sais, honnêtement, avec le temps, quand j'ai commencé l'alimentation cétogène, j'ai vraiment fait par moi-même. Puis au fil du temps, veux pas, tu vas trouver sur des différentes plateformes des docteurs, différents spécialistes, des coups de cœur évidemment, des gens qui ont un message, qui ont... En fait, leur message a résonné en moi et c'est, comme je te disais, est devenu ma propre vérité aussi, oui. Celle que je partage.
Il n'y a rien de mieux qu'expérimenter son assiette en conscience. Et voir, quand je mange ceci, qu'est-ce que ça crée dans mon organisme, dans mon corps, comment je me sens. Je te partageais mon expérimentation du moment. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est pas vraiment une façon de dire aujourd'hui comme voici ce que vous devez faire à partir de maintenant. Ce que tu désires faire, c'est rajouter de la conscience dans l'assiette.
Oui, en fait, de la conscience en vraiment, en prenant le temps d'analyser ce qu'on met dans notre assiette. Chose que moi, avant, c'était d'emblée coup de cœur, j'ai envie de manger des légumineuses, j'ai envie de manger un spaghetti. Je veux dire, je me posais pas la question. C'est ce que je mangeais. C'était bon en bouche, c'était bon dans l'estomac. Ben, bref, c'était bon dans l'estomac.
Au goût jusqu'à temps que l'estomac commence à digérer.
Exactement. Ouais. Et là, le focus dans ce que je suis actuellement, l'univers kétosène, qui est vraiment... Puis tu sais, c'est drôle parce que des fois, les gens vont vouloir googler kétosène et me disent, mais Émilie, je le trouve pas kétosène sur les réseaux sociaux, ni sur Google.
C'est ta création.
En fait, c'est pas que ma création. Moi, je travaille de pair avec ma sœur et mon beau-frère, couple kétosène, si jamais il y a des gens qui sont curieux, qui veulent aller voir. Et c'est venu d'une frustration. Parce que les gens dans l'alimentation cétogène, honnêtement, c'est la restriction... Je veux pas dire calorique, mais la restriction des glucides, ce qui fait que les gens se mettaient à calculer, ce qui fait que ça amenait des frustrations, que les gens... C'est très restreignant. Et à un moment donné, mon beau-frère a juste fait, on va appeler ça le kétosène, puis on va changer les principes de base. Et les trois ensemble, les trois mousquetaires, on est vraiment partis sur ce mouvement-là qui est basé sur trois principes ultra simples. Manger naturellement. Tout ce qui se rapproche le plus près possible de son origine. Ce qui veut dire là que, je veux dire, ce que je donne souvent comme exemple, des céréales. Quand tu vas chercher une boîte de céréales, les gens vont me dire, oui, mais c'est fait avec du blé, c'est naturel du blé. OK, est-ce que ton blé, tu peux le cueillir littéralement, le prendre, puis le manger? Si la réponse, c'est oui, OK, c'est naturel. Mais la réponse, c'est non. Les céréales, je veux dire, ça passe par un procédé de transformation avant que ça arrive dans ton assiette. Donc, le principe numéro un, vraiment, de se rapprocher des aliments qui sont le plus près possible de leur origine. Ça, ça prévaut sur l'ensemble.
OK, ça, j'aime. Juste garder en tête. Est-ce que je peux le cueillir puis le manger?
Le manger immédiatement.
OK. Ça, je vais m'en rappeler.
Oui, hein?
Ouais,
c'est simple.
Ouais, ouais, c'est
en fait,
simple.
Le kétosène, puis tu sais, je vais aller sur le deuxième puis le troisième. Ouais. Faut que ça reste simple, accessible et durable sur le long terme. Donc, dans la simplicité, moi, ce que je te dis là, mes enfants le comprennent. Oui. Fait que le deuxième principe, c'est d'augmenter les bons gras parce qu'étant donné qu'on veut aller chercher quand même l'état de cétose, l'objectif, la philosophie du kétosène, cuisine kétosène en famille, le livre de recettes, c'est la même chose. On veut aller chercher un état de cétose. On veut que le corps bascule sur les lipides, puise son énergie à partir des lipides et non plus à partir du sucre. Donc, il faut avoir une source d'énergie dans son corps. Ce qui fait qu'on va chercher les lipides. Donc, le deuxième principe, c'est d'augmenter les bonnes sources de bons gras.
Et comment on les trouve?
Écoute, déjà en partant, si on est dans le principe numéro un de trouver une alimentation qui est naturelle, déjà à partir des protéines animales, à partir des poissons, à partir, je vais dire les noix, parce que ça reste quand même aussi une source aussi qu'on peut avoir des bons gras. À partir, moi, j'aime beaucoup travailler avec l'huile de coco, l'huile d'avocat, le ghee, le beurre, le gras de canard, toutes ces sources-là de gras. On va chercher ces bons gras-là dans l'assiette. Fait que c'est juste de s'assurer dans la composition de son assiette qu'on a, à travers notre alimentation naturelle, des bons gras qui viennent vraiment rehausser, qui viennent chercher notre deuxième source d'énergie. En fait, notre première source d'énergie, mais notre principe numéro deux.
Principe numéro trois.
Éviter tout ce qui est transformé. Ce qui vient dans les boîtes de carton, ce qui vient avec du suremballage, ce qui vient avec une liste d'ingrédients qui est tellement longue que finalement, on a une préface d'un livre. Fait que c'est vraiment d'y aller avec ça. Puis quand j'ai les aliments transformés, c'est les sucres, les mauvaises huiles. Donc, une fois qu'on les reconnaît, une fois qu'on devient en fait un expert des ingrédients, moi, c'est ce que j'enseigne beaucoup au niveau de tu sais, quand je transmets mes messages, devenez expert à reconnaître, à lister ce qu'il y a sur les étiquettes.
Parce que tes coachs kétosène aussi, aussi t'encouragent les gens à faire le jeûne. On va en parler un peu plus tard. Donc, tu donnes énormément d'informations parce que toi, tu as vu une transformation à un moment donné dans ton univers à propos de l'alimentation. Parle-moi de Émilie avant et Émilie après.
En fait, si je remonte en 2017, je me retrouve dans un championnat mondial de gymnastique ici à Montréal. Ça, c'est dans mon ancienne vie. J'étais directrice de club. Et... ma sœur et mon beau-frère qui étaient déjà dans cet univers-là, qui me parlaient de la cétose. Écoute, ils m'en parlaient avec ardeur, avec vraiment certitude. Puis, je ne comprenais pas trop qu'est-ce que c'était parce que je ne m'étais jamais attardée à l'alimentation, puis encore moins au substrat énergétique.
Okay, puis 2017, là,
on est avant tout le mouvement.
Tout le mouvement keto, là.
Il n'y a absolument rien qui se trouve, je dirais, du côté québécois. Du côté des États-Unis, il y a déjà un mouvement qui est en cours. Mais ici, c'est, je veux dire, tu n'entends pas parler de ça, de la cétose, puis l'alimentation cétogène non plus. ils me font essayer des suppléments thérapeutiques. Et lorsque j'ai essayé les suppléments thérapeutiques, ce que je ne savais pas, mais que j'allais découvrir, c'était des kétones qui permettaient à mon corps d'entrer en état de cétose. Moi, je n'avais jamais vécu ça, là. En fait, je l'ai déjà vécu. Tu l'as déjà vécu. Les bébés naissent en état de cétose, mais on s'en souvient. C'est long time ago, c'est terminé. On touche plus à ça.
Ouais.
Donc, je fais cette expérience-là et quand je fais mon expérience, j'ai dit à mon conjoint, écoute, Jean-François, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait exactement dans mon corps, mais je veux cette sensation parce que pendant cette semaine-là, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis longue date, je cumulais des migraines et des migraines et des migraines. J'avais même passé un taco pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait dans ma tête, là. Donc, tout était beau. Évidemment, ça ne se détecte pas une intolérance au sucre quand on fait des scans. Le corps t'envoie des signaux depuis bien des années. Mais quand on fait des lectures, c'est pas quelque chose qui ressort sur les papiers médicaux. Donc, tout ça pour dire que je faisais des migraines à répétition. J'étais quelqu'un aussi que moi, au fur et à mesure que la journée augmentait, je ballonnais avec des douleurs, évidemment. Mais c'est sûr, je me levais le matin, je mangeais 2 bols de céréales Mini Wheats avec du lait au chocolat dedans.
Oh, OK.
Oui. Oui, ben, aux amandes.
Ah oui.
Aux amandes, Karine, amandes. Mais c'était quand même du lait au chocolat. Fait que c'était quand même une grosse dose de sucre. Et ça pour dire que mes choix alimentaires s'enchaînaient avec des mauvais choix, des choix qui étaient axés vers les glucides. Donc, pendant ces 10 jours-là, silence radio. Je n'ai pas mal à la tête. Je n'ai pas de ballonnement. Je n'ai pas de douleur. Puis je vais aux toilettes. Moi, habituellement, j'avais ma flore intestinale, c'était pas super. Donc, c'est ce que j'ai dit à mon conjoint. J'ai dit, là, je veux ça. Et là, on a fait nos recherches. Et étonnamment, mon chum qui fait ses recherches, là, du côté vraiment du côté anglophone, du côté des Américains, regarde tout ce qu'il y a au niveau des irritants, des symptômes, ce que les maladies sur le moyen, long terme peuvent engendrer avec le sucre. Cholestérol, hypertension, diabète, cholestérol. Alzheimer, tu sais, là, je veux dire, je prends en nommer encore plusieurs, mais je pense que juste ça, les gens vont se reconnaître à l'intérieur de tout ça.
Il doit avoir des douleurs arthrite.
Douleurs chroniques.
Chroniques,
oui. Je veux dire douleurs chroniques, je pense que ça englobe des orteils jusqu'aux oreilles.
Oui.
Et là, mon chum se voit dans le listing des irritants parce que lui, à l'époque, bon, c'est un enfant qui a été diagnostiqué TDAH au primaire. Il a pris les petites pilules bleues, tout, ça donne une idée. Il commençait à faire de l'hypertension. Le cholestérol cognait à sa porte. Il devait faire des siestes avant le repas. Il commençait à faire même de l'apnée du sommeil dans le sens qu'il ronflait. Ça n'avait aucun sens. Quelqu'un qui ronfle, là, je veux dire, le sommeil il part en vrille. Et il se reconnaît à l'intérieur. Et c'est lui qui m'est revenu à peu près, je dirais, 7 jours après pour me dire, écoute, on va le faire, Émilie. On va le faire parce que je me reconnais, puis là, maintenant, je comprends ce que tu as vécu, mais à travers ce que je lis, parce que lui, c'est plus un analytique, on va le faire. Et on a pris la décision de faire un changement drastique. Il y a des gens qui vont vouloir le faire progressivement. Honnêtement, moi, ça m'a tellement fracassé l'état de cétose que j'ai vécu que pour moi, c'était une vérité absolue que je devais changer la composition de mon assiette.
Juste avant que tu me parles de cette transition-là qui a été vraiment très radicale, puis ensuite qui est devenue kétosène, je veux que tu as dit quelque chose d'intéressant qui est une intolérance au sucre.
Oui, tout à fait.
Puis ça se détecte pas effectivement dans le sang nécessairement, mais c'est important de le soulever. Puis j'aimerais qu'on aille juste un petit peu plus loin pour voir si les gens... T'en as déjà nommé, mais quand on parle de brouillard mental, de fatigue après les repas. Tu sais, ce coup de barre-là après le dîner, par exemple, ou après le déjeuner. Moi, je me rendais compte, toast au beurre de peanut, il faut que je dorme après. Je suis pas capable de le supporter ni de le digérer.
Je suis entièrement d'accord. En fait, le corps, là, dès ton réveil, va déjà t'envoyer des signaux que tu as une surcharge. Je vais l'amener dans un autre sens.
OK.
Une surcharge de sucre dans ton sang.
Déjà en te réveillant le matin?
Est-ce que tu t'es déjà réveillé le matin en ayant cette faim, le ventre qui crie famine, puis que là, tu te dis, c'est impossible, je suis non fonctionnelle, je ne peux pas quitter de la maison pour aller travailler si je ne mets pas quelque chose sous la dent.
Vrai, oui. Encore ça, c'était plus de
moi.
Ces temps-ci.
Ça, c'était moi. Le matin, quand je me réveillais, là, en fait, c'est pas mon cadran qui me réveillait. Je me réveillais parce que j'avais faim. En me réveillant, la première chose, bon, ma petite routine, ma toilette, go, mais immédiatement, j'allais à la table. C'était mes bols de céréales. Puis tu dis des toasts au beurre d'arachide, là. avec des bananes dessus.
C'est
là.
Tellement bon.
Puis de la margarine.
Ah oui,
à l'époque, de la margarine. Oh mon Dieu. Donc, ça, c'était déjà un premier. C'est déjà des premiers signaux.
Quand tu te réveilles puis tu as faim, c'est que tu es en surcharge de sucre.
En fait, surcharge, c'est en hypo.
En hypo.
Mais c'est, je l'amène dans le sens contraire pour que les gens comprennent que dans ta journée, ce qui fait que le lendemain matin, tu es en hypo puis que là, tu as besoin, ton corps est en. Il y a un manque là, de sucre à l'intérieur de ton corps.
Ton corps
a besoin de glucose pour être fonctionnel. En fait, il n'y a pas nécessairement besoin de glucose. Il pourrait avoir des bons gras, mais là, à ce moment-là, il n'est pas rendu là.
Oui, oui, on parle d'une alimentation régulière basée sur ce qu'on connaît.
Le guide alimentaire. Ce qu'on a l'habitude. Tu sais, quand on va à l'épicerie, je veux dire, on fait le tour des rangées, puis c'est mis à part les fruits, les légumes et tout ce qui est...
La viande,
la boucherie, j'allais dire la boulangerie.
C'est pas ça.
Non. La boucherie. Bien là, à ce moment-là, c'est majoritairement tu transformes. Donc, déjà, les signaux sont là au réveil. Et là, tu le dis, on va prendre un premier repas et là, on tombe dans notre période de digestion. Et là, il y a en même temps un avalanche de chute énergétique, en fait, qui se crée. Ce qui fait que là, tu le dis, manque d'énergie. Là, tu as besoin... Tu recherches encore là, la part du sucre. Là. Ça va être un café, un muffin, une barre tendre. Tu n'as pas envie de manger des carottes. Là.
Non.
Tu n'as pas envie de manger du concombre. Là. Donc là, au travers de tout ça, le brouillard mental. Moi, brouillard mental. Honnêtement, dans ma période de transition, un grand brouillard mental quand je retirais les sucres au niveau de mon alimentation. Avec tout ça, sans suite, t'sais, pis sans entrer dans les diagnostics, parce que je ne peux pas parler de diagnostic, non. Mais le corps est là. T'sais. Je disais des maux de tête, des ballonnements, des gonflements, des problèmes intestinaux, des problèmes de digestion. Puis ce que je te dis là, c'est tout ce que moi, j'ai vécu. Puis honnêtement, tant que j'ai pas eu changé mon alimentation, c'était ma normalité. Pour moi, c'était normal d'être ballonné. Pour moi, c'était normal d'avoir des épisodes de maux de tête. Pour moi, c'était normal d'avoir des coups de fatigue. Parce que de toute manière, quand j'écoutais autour de moi, majoritairement les femmes, c'est ce que j'entendais. C'est ce que j'entendais. Fait que c'était rendu une normalité jusqu'à temps que là, je change mon mode de vie et je fasse « Oh, t'es un petit peu là ». Non seulement je me sens bien, mais je me sens super humaine.
Donc, c'est pas normal quand le soir, t'arrives puis tes pantalons, ils sont trop serrés.
Pas du tout.
C'est pas le gonflement normal d'une journée.
Pas du tout.
C'est pas supposé, le corps n'est pas supposé de gonfler au fur et à mesure que la journée avance.
Pas du tout, comme c'est pas supposé que, même si t'es une maman, que t'as, moi j'ai 3 enfants, aujourd'hui, ils ont 10, 14 et 15, mais même quand ils étaient plus jeunes, pourquoi après les bains, on entend souvent, puis je vais dire les mamans, là, mais ne m'en voulez pas les hommes, les hommes aussi, là, peu importe, que le parent tombe au combat devant la télévision avec ses enfants parce que tu as des enfants? C'est pas supposé. L'énergie, cette énergie-là qu'on a avec le sucre, elle est tellement en dents de scie, elle est instable, de courte durée. C'est ce qui fait qu'on veut toujours aller chercher, agripper quelque chose au niveau de qui a un des glucides à l'intérieur ou même du mauvais sucre, du sirop de maïs, pour ne pas dire. C'est ce qui fait qu'on en veut toujours pour garder cette petite énergie qu'on pense retrouver au premier, parce que le premier kick de la journée, le premier beau énergie qu'on a le matin lorsqu'on va manger un repas qui est vraiment rehaussé en glucides, va nous amener une grande énergie, un grand high. Mais la chute après, elle est vraiment drastique. Puis quand on veut retrouver ce high-là, ça va toujours, tu sais, ça fait un peu comme là, je sais qu'on est en podcast, les gens ne voient pas.
Ou sur YouTube, imaginez-vous, si jamais vous avez besoin d'image.
Imaginez-vous, là, on a un grand pic, on a un down. On a un pic un petit peu plus bas, une chute plus basse. Puis là, ça fait toujours ça. Ça descend toujours. Tu retrouveras jamais le même kick d'énergie du matin versus en soirée. D'où pourquoi les gens en soirée se couchent tôt ou tombent au combat en allant dormir les enfants. Puis je me suis endormie à 8 heures avec les enfants dans le lit. Alors qu'aujourd'hui, j'ai de l'énergie le matin quand je me lève et jusqu'au soir, jusqu'à temps que je mette ma tête sur l'oreiller. En termes d'énergie, c'est non comparable.
Donc, tu as choisi à un moment donné d'expérimenter un changement drastique. Ton amoureux est d'accord, comme let's go, on l'expérimente. Et là, tu t'en vas dans le radical.
Oui.
Est-ce que c'était une expérience facile?
C'est drôle, les gens me posent cette question-là. En fait, dans ma perspective de départ, quand on a décidé de le faire, puis ça va avec mon type de personnalité. Là, j'ai les cheveux rouges, j'ai de l'énergie. Je suis quand même assez impulsive, mais une bonne impulsion au niveau de... Quand on a décidé de le faire... Ma première réflexion a été de dire à mon chum, on va le faire. On va vraiment faire ça de manière drastique parce qu'on veut voir la pleine puissance de la cétose. Par contre, si j'ai une troisième fesse qui me pousse, parce que là, on parle de gras.
Oui.
Puis là, on dit... Moi, j'ai toujours repoussé le gras, là. Je veux dire, j'en ai pas mangé. J'achetais des trucs, tu sais, sans gras. Je veux dire, je mangeais pas de gras.
Oui.
Et là, je me dis, si j'ai une troisième fesse qui me pousse, c'est sûr...
Sûr qu'on arrête.
Et les journées s'enchaînent. Première semaine, deuxième semaine, mais là, tu te sens bien, là. Parce que là, déjà, dans mon changement drastique, même si j'ai eu la période de grippe cétogène, le keto flou, la période de transition, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui se crée dans mon corps et rapidement, les bons coups s'en viennent. L'énergie, l'appétit stable, moi qui dois manger initialement avant cette découverte-là, dès le réveil, aux heures 30, moi, je mange 3 repas par jour, 4 collations, minimum-ish par jour. Et là, je bascule à 3 repas, plus besoin de collation. Parce que je prenais encore 3 repas au début. Le matin, là, ça a été quand même un enjeu pour moi de prendre un repas qui était complètement différent avec un café gras. Et là, oh, je me rends compte que finalement, mon café gras est suffisant. Donc là, je passe à 2 repas par jour, plus de collation. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est similaire. Là. 2 repas ou 1 repas et demi parce que je vais collationner et je suis capable de prendre un bon repas. Fait qu'on a décidé de le faire drastiquement parce qu'on voulait le vivre pleinement. Ce qui est comique, c'est que nous, on a nos 3 enfants à l'époque.
Oui, c'est ma prochaine question. Les enfants ont-ils embarqué tout de suite d'emblée ou tu as fait une première transition puis les enfants ont suivi après?
Écoute, mon chum me dit, Émilie, on va le faire nous puis on va voir avec les enfants. Et moi, après 3 jours, je me disais, mon Dieu, c'est moi qui prépare les repas. Là, je dois faire 2 repas pour eux, pour nous. Puis du coup, ça me challengeait parce que je me disais, si pour moi, le fait de, pour moi, retirer les sucres, tu sais, aujourd'hui, oublions le mot keto. Oublions le mot kétosène. Si je te dis, Karine, de retirer les sucres, est-ce que ça fait du sens?
Oui.
Ben ça faisait du sens pour mes enfants.
Oui.
C'était logique que je devais le faire pour eux aussi. Puis de me voir en plus, devoir cuisiner 2 fois, je trouvais ça comme un peu, hein, tu sais, je suis dans le spleen là, de l'enfance, là, 3 ans, 7 ans, 8 ans à l'époque, là, qui ont les enfants. Ouais. Donc, après 3 jours, j'ai regardé Jeff, j'ai dit, OK. Là, on les embarque là-dedans.
Ouais.
Puis ce qui était comique, c'est que je me souviendrai toujours les premières fois que là, je cuisine mes déjeuners, que là, je sais pas trop quoi manger parce que moi, je suis vraiment céréales, toast, là. Puis là, faut que je change ça. Je trouve une recette sur Internet que j'essaie. C'est une espèce de crêpe. Et là, je cuis ça dans la poêle. Puis mes enfants me regardent en me disant, ça a pas de l'air mangeable, maman. Et là, je prends ma première bouchée, puis c'est tellement sec. Puis là, je pars, là, puis ça revole comme des biscuits soda. Puis là, je suis comme, mon Dieu, Jeff, je sais pas comment qu'on va faire pour que les enfants puissent manger comme nous. Parce qu'effectivement, même moi, je suis un adulte, je le fais en prise de conscience en me disant, même si c'est pas mon pain traditionnel, celui-là, au moins, ne m'amènera pas de maux de tête, de ballonnement, de douleur au ventre. Fait que pour toutes ces raisons, le plaisir en bouche, je suis prêt à faire des sacrifices en bouche pour le bien-être de mon corps. Mais là, je me dis, mon Dieu, mes enfants, eux autres, ils ont pas sont pas rendus là. Ils n'ont pas l'intelligence émotionnelle, la maturité émotionnelle pour se dire, maman, on embarque avec toi. Donc là, c'est là que je me suis mis vraiment à cuisiner énormément de recettes pour les mettre au goût de notre famille à nous. C'est vraiment là qu'il y a eu mes recherches.
Ah ouais, puis là, je rappelle le titre du livre qui est maintenant disponible partout. Vous pouvez le commander sur Internet. Vous pouvez le retrouver dans toute bonne librairie ou grande surface. Cuisine kétosène en famille. T'en as déjà diffusé des recettes, entre autres sur ton site Internet. Puis à chaque fois, tu pourrais regarder le nombre de fois où je fais comme « Miam, wow, ça a l'air donc ben bon. » Puis encore là, il y a bien des gens qui disent « Quoi, il n'y a pas de sucre là-dedans? » Fait qu'il y a une possibilité d'avoir une super alimentation kétosène ou pas, comme tu le dis.
Oui.
Tu sais, c'est correct d'embrasser le kéto, le kétosène,
cette philosophie, ce mode de vie.
Mais c'est correct aussi juste de dire comment pouvons-nous réduire la quantité de sucre qu'on ingère dans une journée.
Tout à fait. Honnêtement, tu sais, moi, je parle beaucoup de cétose, puis j'ai à cœur que les gens retouchent, goûtent à ce substrat énergétique-là qui est réellement... C'est toujours le mot puissant qui me vient en tête. Là. C'est vraiment... faut le vivre pour le comprendre. Ouais. Tu sais, les gens, souvent, ils vont me dire, oui, mais essaie-le. Essaie-le pendant 3 mois, 6 mois. Vis-le, puis tu vas voir, tu vas l'adopter. Mais pour le commun des mortels, juste le fait, avec le livre de recettes ou en passant par les recettes, simplement le fait de réduire la consommation de sucre, c'est sûr qu'il y a des bons coups qui vont s'ajouter. Les gens, souvent, ce qu'ils vont me dire, c'est qu'ils ont beaucoup plus d'énergie. Il dort mieux. Puis évidemment, la transformation corporelle, j'ai pas choisi de le dire. Puis c'est drôle, là, je t'en parle là, puis c'est rare, je parle de transformation. Je pense qu'on en a même pas parlé la première fois.
Non.
Exactement. Mais ça s'ensuit également. Mais tout ça pour dire que même en réduisant les sucres, il y a déjà, tu sais, sur ton bilan de santé, là, à toi, là, je veux... Tu n'as même pas besoin de me dire d'où est-ce que tu pars. Moi, je sais que d'où est-ce que tu pars avec le fait de réduire les sucres. Oui. C'est sûr que tu vas me dire, Émilie, depuis que j'ai réduit les sucres, oui. simplement en changeant, exemple, la composition de mon assiette le matin. Parce que le matin, je dirais que c'est là qu'est le défi principal
oui.
pour les familles, les gens qui veulent faire ce
virage-là.
Ce virage-là, exactement. On a, tu sais, les repas sont c'est des bagels, des croissants, des muffins, des crêpes, des céréales. C'est là qu'il y a la majeure partie des glucides. Puis on démarre notre journée avec une dose incroyable de glucides. Ce qui fait que là, ça part en vrille.
Fait qu'est-ce que tu recommanderais, par exemple? Il y a ton livre de recettes qui est extraordinaire.
Oui.
Puis juste vous dire, on enregistre ceci alors que le livre est en précommande seulement, mais du moment où vous entendez cet épisode-là, tout est fait. Oui. Mais il y a tellement une demande que la date de sortie est devancée, c'est tout dire.
Ça devait être, je ne sais pas si on rentre dans les dates, mais ça devait être le 17 mars. Finalement, c'est ramené au 13 mars. Honnêtement, je suis épatée. J'ai même fait des TikTok, des posts au travers de tout ça pour le partager. Et là, les gens demandent vraiment au niveau du livre. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est cocasse. Ce livre-là de recettes, je l'ai écrit en 2018.
Wow!
Oui, ça fait déjà depuis 2018. Moi, je l'avais sorti sur format PDF parce qu'il y avait vraiment de la demande. Puis honnêtement, quand je faisais goûter les recettes que je créais, les gens me disaient... Attends un peu, Émilie, là. C'est keto, ça, là. Il n'y a pas de sucre. Tu es en train de me dire que ça, si je prends ça, il n'y a pas de sucre. Je suis comme, oui, tout à fait. Mais c'est donc ben bon. Mais on aime ça. Fait que là, ça m'a comme donné cette espèce de propulsion-là à me dire, OK, un livre de recettes. Donc là, j'ai écrit mon livre de recettes sur à peu près, je dirais, 8 mois. Quand même quelque chose d'ardu, là. Quand tu n'as jamais écrit de livre, tu le sais, tu as écrit des livres. Quand ouais. je veux dire, j'avais pas de personne qui m'accompagnait. Je le faisais selon moi, mon expérience, qui était l'expérience du jour 1 au jour final. Donc, j'ai créé ce livre-là en 2018. Je l'ai partagé sur les réseaux sociaux. Ça l'a fait fureur. Et là, dès le départ, je me disais, un jour, il va être sur tablette. Puis, tu sais, de la visualisation, la manifestation, à chaque fois que j'allais, je vais au Costco puis à l'épicerie souvent, là, je me l'imaginais sur les tablettes. Puis là, on est rendu là.
Ça s'en vient. Ou c'est déjà là quand on nous écoute.
Oui, c'est ça. On y est là.
C'est déjà là.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment extraordinaire. Fait que là, on a parlé de ton côté strict.
Oui.
Tu embarques les enfants.
Oui.
Là, tu veux rendre ça appétissant, fait que tu commences à cuisiner. Ça crée un livre,
oui.
2018, dans les dates, oui. là, on suit. 2017, tu découvres ça avec ton beau-frère dans une compétition de gym. Là, on est rendu en 2018, commence à cuisiner. Et là, tu dis, ouf, il me semble que c'est un peu rigide, là.
Oui.
Là, c'est correct d'être intense, correct, mais là, à un moment donné, il y a de l'espace que tu as envie de créer. C'est là que le zen apparaît.
Tout à fait. On est parti de 2017-2018 strict, puis je veux faire une parenthèse parce qu'il y a peut-être des parents qui vont dire tu faisais le strict avec tes enfants.
Ouais. Ah, bon oui. point.
Oui, parce que le strict, on se souvient, c'est 20 grammes et moins par jour. Je n'ai jamais calculé,
okay.
Jamais calculé, mais de toute manière, mon cerveau était bon à calculer moi ce que je mettais dans mon corps. Puis pour mes enfants, c'est que quand je parle du strict, c'est qu'au niveau de ce qui pouvait rentrer à la maison, exemple les fruits. Parce que c'est surtout les fruits qui vont venir titiller les gens. J'achetais encore des fruits, mais j'achetais des framboises, des fraises, des mûres et des bleuets. Je restais vraiment avec les petits fruits pour avoir des indices glycémiques très bas. Puis, on y allait comme ça. Mais les enfants mangeaient, ils ont toujours mangé à satiété. Là. Jamais que j'étais dans la restriction calorique. J'ai jamais dit à mes enfants, ne te resserre pas. Là, okay?
Non, mais je
prends le temps de le préciser pour pas que les gens fassent comme...
Oh mon Dieu, ça peut être le fun d'habiter là.
Non, pas du tout. C'est simplement que j'étais le gestionnaire, la capitaine du garde-manger. C'est complètement différent. Tu sais, souvent, les parents vont me dire, oui, mais là, mes enfants voudront pas, mais tu restes le capitaine du garde-manger. Moi, quand ils ont 3, 7, puis 8 ans, là, puis même encore aujourd'hui, ils ont 10, 14, 15, c'est moi qui vais à l'épicerie, c'est moi qui décide si j'achète ou pas les pâtes d'ours.
Oui.
Fait que c'est un choix. Donc, on part de 2018, on est dans le modèle strict, dans le sens plus dans ce qui est permis ou du moins ce qui est véhiculé dans la littérature au niveau de l'alimentation cétogène strict. Et le kétogène arrive avec plus de légèreté, plus d'accessibilité. On change le focus. Au lieu de vouloir vraiment travailler avec les glucides nets, on veut travailler avec une alimentation naturelle. Ça, ça parle. Et du coup, c'est dans le même air d'élan que nous, on s'envole pour le Mexique. Et lorsqu'on est allé au Mexique,
5 mois, juste pour les gens, les mettre en contexte. C'est pendant la pandémie. Oui. Tu décides de décoller avec ta famille. Vous êtes partis tous les 5 oui. pendant 5 mois. Ça devait être un mois. Vous êtes restés plus longtemps.
Oui, tout à fait. Ça a été un voyage de toute une vie. Ça l'a changer notre perspective, tant au niveau de l'assiette, ça l'a vraiment fait évoluer notre philosophie par rapport à l'assiette, mais aussi par rapport au mode de vie, par rapport au fait de vivre.
Ralentir. C'est ça.
Exactement, vivre. Ouais. Donc, quand on est arrivé là, évidemment, il y a dû transformer au Mexique. Là. Je veux dire, quand tu fais les allées du milieu, c'est des rangées d'huile de canola, des ramen, des chips, des biscuits. Je veux dire, ils ont le transformé comme nous aussi. Par contre, au niveau des fruits et des légumes et de tout ce qui est les viandes, ils ont un choix exceptionnel. C'est local, c'est savoureux. Et pendant cette période-là, lorsqu'on allait faire l'épicerie, au niveau des légumes, moi, ce que je connaissais, là, parce que là, on part, là, de je suis au Québec, puis là, on mange beaucoup de légumes verts, beaucoup, tu sais, mon frigère est rempli de légumes. Quand on arrive au Mexique, c'est l'effet inverse, c'est importé. C'est pas local. Des brocolis, ça pousse, c'est pas un légume qui est local. On va avoir d'autres types de légumes, mais c'était plus des légumes fruits. Donc, notre alimentation a fait un virage beaucoup plus axé vers les fruits. Donc, on continue à manger les légumes, mais on a réintégré les fruits. Surtout, en plus, le soleil...
Le corps en a besoin.
Le corps en a besoin. Oui. C'est complètement différent. Je pense vraiment que selon les saisons, où est-ce que tu habites sur le globe, il y a une différence au niveau de tes apports en... Les vitamines et les nutriments, ça reste là, oui. mais... de ce que ton corps a besoin oui. dans l'immédiat selon ce que tu dépenses comme énergie.
Puis on le voit, l'hiver, l'été, on mange pas la même pas chose. L'été, c'est plus des petites salades. On dirait qu'on
oui,
a plus
léger.
Plus léger.
Ouais. C'est différent. Donc, on est là et les fruits font une réapparition dans notre alimentation.
Et là, on est loin des fraises, des framboises, des bleuets et des mûres.
Là, on est dans les
mangues,
la papaye. La mangue, la papaye,
ouais,
l'ananas. écoute, là.
J'ai la bouche qui salive,
oui, oui. Ouais. Donc, lorsqu'on est revenu, évidemment, là, ça fait 5 mois qu'on mange des fruits. Puis du coup, si je continue à suivre ce qui se fait au niveau de la nutrition, moi, j'aime beaucoup Paul Saladino, James DiColantonio, je pense que je le dis bien, mais en tout cas, James, sur les réseaux sociaux. Je suis plein de gens sur les réseaux sociaux. J'aime voir ce qui se fait. C'est évolutif. Ouais. Moi, je pense vraiment que tout est évolutif.
Je suis convaincue aussi.
Donc, au retour, on a décidé de conserver les fruits. Puis tu vois, les légumes verts ont pris un petit peu moins de place dans notre assiette.
Ah ouais.
Puis du coup, en suivant ces médecins-là qui commencent à parler, là c'est quelque chose que je ne savais pas parler, mais on commence à parler des oxalates, des antinutriments qu'on retrouve dans les légumes verts, ça résonne en moi. Et là, je me mets à m'auto-analyser davantage.
Exact.
Et là, je réalise que quand je mange certains légumes verts, je
comme
ballonne.
Juste un exemple, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver vous à la maison, mais toi, qu'est-ce que tu as?
Exemple, le brocoli.
Le brocoli.
Ou le chou kale. Ou les épinards. Tu sais, c'est entre autres ceux-là qui ont des. Il y a plusieurs choses qui contiennent des antinutriments, des oxalates, mais bref, j'y vais pour la cause avec ceux-là. Et là, je réalise que si je ne ballonne pas, j'ai des inconforts, puis le lendemain, je vais un petit peu plus aux toilettes. Fait que là, je fais. Un peu, là. Tu sais, là, ce que j'entends, ça fait du sens en moi. Puis là, je réalise que. Puis je ne suis pas tant inconfortable non plus parce que je veux pas, j'ai tellement. Un mode de vie au niveau de l'alimentation qui est quand même, c'est quand même
naturel,
des aliments naturels.
C'est
okay?
de l'origine. Là,
exactement.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, tu vas me dire entre un brocoli puis un pogo, le brocoli, là,
ouais,
je veux
ouais,
dire,
ouais.
100 000 à l'heure. Là, tu sais, je me retrouve sur une île déserte et là, j'ai le choix. Je vais quand même prendre le brocoli avec les oxalates que versus le pogo qui est transformé.
Absolument.
Et on s'entend là-dessus. Ouais. Donc, je fais comme des liens au travers de tout ça, puis de fil en aiguille avec ce que j'entends qui devient encore là une nouvelle vérité. Tu sais, moi, dans ma tête à moi, je suis ouverte, OK? Dans le sens que quand j'ai commencé au départ, j'ai saisi de l'information qui est devenue ma vérité, qui a été notre cheminement, qui fait qu'avec le temps, je continue à écouter, je continue à observer, à m'analyser, parce que je veux pas aussi, j'avance en âge, mon corps change au travers de tout ça. Donc,
périménopause aussi, ça en amène d'autres changements, ménopause.
Puis on n'en a pas parlé. Hein.
Ben non, je pense qu'on va faire, ça va prendre 8 épisodes ensemble.
Ça, on n'en a pas parlé, mais moi, 32 ans, ma mère qui me disait, pour moi, t'es en périménopause, Émilie, j'avais des sueurs nocturnes. De l'acné, une baisse drastique de libido, irritable, des cravings incroyables, jusqu'à temps que je découvre l'acétose et que je n'ai plus rien. Encore là, silence radio.
Intolérance aux glucides, ça a des impacts partout.
Moi, tu sais, je le dis, des fois, les gens me disent, mais quand tu vas à l'extérieur, comment tu fais? Tu sais, si les gens t'invitent à souper, écoute, quelqu'un qui est allergique au homard, tu lui serviras pas un homard. Moi, je suis allergique au sucre. Et c'est dit, je veux dire, pour moi, c'est non négociable. Tu m'offres un plat de pâtes, je le mangerai pas parce que je vais mal filer. Je veux dire, pour tout ce qu'il va avoir comme, c'est pas juste cours, là, ça prend plusieurs jours de récupération. Oui. Là, ça peut prendre des fois jusqu'à une semaine de récupération.
Absolument.
Donc, pour le peu de plaisir en bouche que j'ai sur une courte durée versus les symptômes qui durent beaucoup trop longtemps, pour moi, c'est non négociable.
Là, je pense que tout le monde m'en voudrait de terminer l'épisode ou presque, il nous reste quelques minutes. Si je parlais pas de tes enfants, qui sont un des acteurs de changement, mais tes enfants, ils vont ailleurs.
Oui.
Ils vont faire des dodos ailleurs, il y a des repas ailleurs où la maison n'est pas kétosaine, où l'alimentation est beaucoup plus traditionnelle, si tu me permets l'expression. Qu'est-ce qui se passe quand tes enfants vont?
Il y a un « let it go ». De un, il y a un « let it go ».
Toi, tu lâches prise.
Ben oui. Tu sais, j'en vois pas mes enfants coucher ailleurs avec une boîte à lunch ou en téléphonant le parent pour leur dire « vous savez qu'on est kétosaine ». Pas du tout. Donc, les enfants le font. Puis encore là, mon chum, il est bon pour me ramener, hein, parce que dans les débuts, c'était quelque chose qui me... J'avais quasiment des triggers, là, tu sais, j'étais là, comment qu'on va faire? Là, ça vient comme ça vient débousseler tout ce qui se passe. Puis comme il m'expliquait, puis il me dit, je le redis parce que c'est bon, puis quand je le dis, les gens font comme, ça fait du sens. 90 % du temps, 95 % du temps, mes enfants sont à la maison, c'est moi qui fais les boîtes à lunch pour l'école, ils mangent bien, ils mangent kétosène à la maison. Fait que pour le 5 % à l'extérieur, ou le 10, ou le 20, si une semaine sont par... Je veux dire, le reste du temps, ils font bien. Donc, c'est dans cet esprit-là que je me suis mise au début, puis c'est dans l'esprit que j'amène les parents aussi, puis les gens que j'accompagne, parce qu'il y a beaucoup de couples séparés aussi qui viennent me voir. Mais Émilie, qu'est-ce que je fais? J'ai 50 % du temps mes enfants à la maison, l'autre 50 % je n'ai aucun pouvoir. Mais c'est 50 % de gagner. Il faut toujours le voir dans du côté positif. Donc, quand ils vont à l'extérieur, évidemment, il y a un let it go. Mais honnêtement, quand ils reviennent,
ouais,
je le vois.
Ah, oh, dans leur tempérament?
Dans leur énergie,
okay,
dans leur physique. Et je le vois et ils me le disent qu'ils le sentent aussi. Ma fille, exemple, là, on se parle là, dans un podcast à l'instant, puis hier soir, elle avait une soirée entre amis. Ce matin, quand je suis allée la chercher avant que j'aille la reconduire à son travail, elle me dit, maman, je le sens, je suis fatiguée. Puis là, elle m'a demandé de prendre un supplément thérapeutique pour ramener rapidement l'état de cétose. Mais ils le sentent, ils le voient. Il y a vraiment une baisse d'énergie. Je te dirais que même eux, avec le temps, font des choix plus consciencieux. Puis tout ce qu'ils ont appris là aujourd'hui, puis tu sais, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Mais assurément, dans l'univers dans lequel ils baignent, c'est sûr que ça leur donne des outils. Puis ils le vivent, ils l'expérimentent, ce qui fait que tôt ou tard, en sortant de la maison, s'ils veulent vivre leur vie d'adulte et aller dans les restaurants puis manger comme le commun des mortels, ils vont quand même avoir vécu le avant. Puis j'ai un feeling qui vont revenir si jamais ils ont cet écart-là parce qu'ils l'ont goûté, cette pleine puissance-là à l'intérieur d'eux.
Mais tu parlais d'eux comme étant des agents de changement.
Ah, tout à fait.
Est-ce qu'ils font déjà de l'éducation ou est-ce que ça... Oh, c'est
oui.
déjà arrivé? Ils ont passé des commentaires sur la boîte à lunch d'un copain ou d'une copine?
C'est très drôle. Quand ils étaient plus jeunes, quand on allait à l'épicerie, entre autres au Costco, les enfants me le disaient, « Maman, les paniers, c'est, tu sais, ils voyaient, ils remarquaient. » Quand on allait à l'extérieur, des fois dans des soupers, ils pouvaient prendre une, je sais pas moi, une sauce X, Y, Z qu'on met dans une salade puis le dire, « Ah, il y a du sucre à l'intérieur. » Fait que déjà, ils étaient conscients. Où est-ce que là, je le vois davantage en vieillissant, c'est par le biais de l'école, où est-ce que des fois, ils ont accès à des nutritionnistes qui viennent durant les exemples dans le sport, faire des cours.
Et là, on parle du guide alimentaire
oui,
canadien.
Oui, tout à fait. Et là, mes enfants, de lever la main et de parler selon eux, leur vérité à eux, évidemment. Donc, tu sais, chaque vérité est vérité.
Oui, oui.
Mettre ça pour dire que de challenger des nutritionnistes, de challenger des enseignants, de challenger des profs, oui, on est là. Là, je dirais que mes filles, à ce moment-là, sont un petit peu plus calmes parce qu'elles sont au secondaire, les yeux un peu plus rivés sur eux. Mais du moins, je sais entre autres que Zach, à l'école, les gens au niveau du service de garde viennent. Moi, mes enfants, là, je veux dire, depuis qu'ils sont au primaire, les enseignants, les gens du service de garde, les techniciens viennent voir ce qu'il y a dans les boîtes à lunch. Ils sont curieux. Mais en fait, les gens, ça apporte la curiosité. Oui. Puis je trouve ça génial. Oui, génial.
C'est ça l'objectif du podcast, toi et moi, aujourd'hui. C'est pas de dire aux gens, voici tel type d'alimentation, voici ce que vous devez faire. C'est comment pouvons-nous être encore plus curieux et alertes aux signaux?
Oui. Oui, parce que le corps envoie des signaux, il en envoie. Puis là, déjà, en étant conscient que ton corps te parle. Est-ce que, moi, j'aime bien faire cet exercice-là, OK? Là, vous êtes à la maison, vous écoutez. Imagine-toi, là, tu fermes tes yeux, tu pars de tes orteils. Et là, tu fais un scan. Les genoux, les cuisses, le ventre, monte au niveau de la digestion, les épaules, les articulations, le cou jusqu'au niveau de la tête. Est-ce que tu ressens des douleurs durant ta journée? Est-ce qu'il y a des, signaux? Là, des... Fait que c'est en faisant ce scan-là que ça t'indique que, puis moi, je pense fermement que ça passe majoritairement par l'assiette. Oui, il y a les émotions, ça, j'en conviens. Je suis vraiment branchée là-dessus oui. aussi. Mais l'assiette joue une grande, grande part. Donc, en faisant ce scan-là, est-ce que tu as des indicateurs qui font que... parce que c'est pas normal d'avoir des douleurs chroniques. C'est pas normal d'avoir mal à la tête, d'être abonné au Tylenol comme moi je l'étais. C'est pas normal d'être ballonné. C'est pas normal que durant la journée, que tu aies des grandes baisses énergétiques puis que tu te dois de prendre des Red Bull, un café, une barre de chocolat. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui aient le diabète de type 2 à peine à l'âge de 30 ans. C'est pas normal que le cognitif, qu'on ait des troubles au niveau de la cognition, que le cancer soit là comme répandu comme si c'était la peste noire, c'est pas normal. Le peuple et les gens sont malades, puis la réalité, c'est que le système de santé, on fait juste donner des pansements par-dessus pansements sans aller travailler à l'origine, à la source.
Ce qui est dans votre assiette.
Ce qui est dans votre assiette, exactement. Tu sais, je dis pas que ça va faire 100% du travail, mais ça n'en fait 20, 40, puis je te dis ça, puis j'ai un frisson. 70 %. Pourquoi pas l'essayer? De toute manière, c'est une nécessité manger. T'as pas le choix.
Comment on peut améliorer notre vie oui. en choisissant ce qui va dans notre assiette et en étant tellement à l'écoute de voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je mange ceci?
Oui.
Si jamais vous avez eu une prise de conscience, vous avez envie d'en savoir davantage sur Émilie qui fait de l'accompagnement, coach kétogène, jeune, conférencière également, auteur du livre, je le rappelle, Cuisine kétogène en famille. De toute façon, vous avez tout le descriptif dans le podcast, dans ce post-là, là, que vous soyez sur YouTube ou encore peu importe la plateforme, vous avez tous les détails. Cliquez, allez voir. Engagez la conversation. Venez nous voir sur Instagram. Voici ce que j'ai changé. Voici ce que j'ai expérimenté. On a envie d'avoir votre feedback sur votre assiette.
Tout à fait, parce que vous êtes des agents de changement aussi. La personne qui le teste, qui le fait sur elle, voit des changements assez rapidement et se met à en parler autour d'elle. Et c'est ce qui fait qu'il y a un impact sur le
oui.
monde. Moi, j'adore. Hein?
Impacter le monde, c'est ça qu'on
me
veut.
Ça rejoint.
Ah, tellement. Merci, 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 Émilie. Encore plus de toi dans mon assiette. Je ne sais pas si ça se dit. Peut-être pas.
Mais plus encore, de vitalité dans notre
ton assiette. Encore plus de ton savoir. Puis merci de le partager. Merci de donner cette information-là, cette éducation-là avec autant de légèreté.
Oui.
Et en permettant à tout le monde de choisir aussi qu'est-ce qui est bon pour lui.
Oui. Ah, merci. C'est un grand bonheur, un grand honneur, un grand honneur oh, ouais. d'avoir été ici, honnêtement. Merci infiniment.
Merci.
Depuis le temps que je te suis.
Ben oui, on se suit mutuellement. Ta dame, ça y est, depuis le Mexique, je te suivais. Merci. Oh my! C'est magnifique. On a fait un épisode délicieux qui me donne envie de connecter encore plus à mon assiette.
J'adore. Merci.
Merci. Voilà, ça complète déjà cet épisode du podcast Impacter le monde. Encore plus de ceci, s'il vous plaît. Si tu désires participer et co-créer un épisode parce que tu es un créateur, créatrice de lumière, tu peux toujours tout de suite te diriger vers mon site internet karinechampagne.ca/impact ou encore si tu désires explorer l'univers incroyable de la question. Abonne-toi tout de suite à mon infolettre sur karinechampagne.ca. Encore plus de questions, s'il vous plaît. Encore plus de liberté. Encore plus d'espace.